Je suis persuadé que le Seigneur vous a parlé, mais vous êtes trop timide. Alors, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur, et ça, c'est venu autour d'une conversation que j'ai eue dans mon travail. Et la question, vous pouvez l'avoir dans votre vie de tous les jours. Mais comment... Pourquoi tu as réussi ta vie? C'est incroyable. Vraiment, tu as réussi ta vie. Et quand vous commencez à poser la question, mais en fin de compte, pourquoi tu dis que j'ai réussi ma vie? Et vous allez entendre que dans les critères du monde, on l'a entendu dans le milieu politique, c'est parce que il y a une superbe voiture, c'est parce qu'il y a une magnifique maison. Pour certains, il fut un temps, vous l'avez tous entendu, c'était qu'il fallait avoir une Rolex. C'est incroyable. Voilà les critères du monde pour ceux qui ont réussi leur vie. Alors ce matin, j'ai envie de vous partager les secrets de la réussite. Qu'est-ce qui fait que nous, en tant que chrétiens, on va réussir sa vie ? Alors, en Ésaïe, chapitre 30, verset 15, pardon, car ainsi a parlé le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Alors, quand on regarde les grands sportifs, ceux qui ont marqué leur génération, les Teddy Riner et compagnie, ce qui est impressionnant, c'est que ils sont calmes. Ils sont calmes devant l'adversité, devant les combats, devant parfois des choses, un championnat du monde, une médaille olympique. Ils peuvent être menés, ils peuvent être menacés, ils peuvent être tout ce que vous voulez, pourtant, ils conservent leur calme. À l'inverse, il y a des personnes qui paniquent, il y a des personnes qui réagissent face à certains événements, ils réagissent par la panique, par l'énervement. Et les résultats, en fin de compte, c'est quoi? C'est qu'ils perdent leur calme, ils perdent leur tranquillité. Et souvent, malheureusement, ça finit par la colère et ça finit par l'échec. Et c'est quoi pour nous? Pour nous, c'est la paix. La paix de véritable qui vient de Dieu. Mais une paix qu'on ne peut pas inventer. Parce que bien sûr, quand je parle du sportif, ils ont des techniques. On verra plus tard leur confiance. Mais le Seigneur nous donne sa paix. Et en fin de compte, elle vient de où cette paix? Elle vient du fait qu'on passe du temps avec le Seigneur. C'est l'aboutissement de tous ces moments qu'on passe avec lui, qu'on est là à rechercher sa face, qu'on est là à lire et étudier sa parole, qu'on ne quitte jamais le Seigneur des yeux. Pendant ces moments-là, parce que bien sûr, il y a le travail, il y a plein de choses, mais c'est les habitudes qu'on a prises avec le Seigneur qui nous procurent cette paix. Si vous avez un guide et le guide vous dit, voilà, on va traverser une zone très très sombre, tu t'accroches à mon sac et tu me suis. Accroche-toi bien. Qu'est-ce qui arrive si jamais vous ne vous accrochez pas bien? Vous allez perdre votre guide. Avec le Seigneur, c'est exactement la même chose. L'image de s'accrocher au Seigneur, c'est le fait de prendre sa parole, de passer du temps dans la parole du Seigneur, de passer du temps dans des moments de prière, de passer du temps à lui parler tout simplement. On passe des fois, moi je passe 50 minutes de trajet pour le travail. Qu'est-ce que je fais pendant 50 minutes? Je ne peux pas sortir dehors puisque c'est moi qui conduis. Il m'arrive de prier. Il ne m'arrive pas tout le temps. Je ne suis pas en train de vous dire que je monte dans la voiture, je prie, je parle. Non. Mais il m'arrive de partager avec le Seigneur des choses, des situations. Et c'est ces moments-là que le Seigneur augmente la paix en nous. On a la tranquillité, on a le calme. Tout à l'heure, on a parlé de l'Esprit. C'est l'Esprit qui est en vous, qui vous apaise. En Jean, chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde donne que je vous donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne soit point craintif. » En finalité, c'est parce qu'on a atteint un niveau d'intimité avec le Seigneur très profond. La tempête va arriver. On ne va absolument pas paniquer. La tempête va s'abattre sur notre vie. On n'aura pas peur, on ne va pas craindre. Même si on est submergé par le fleuve, par les flots, on ne craindra pas. Parce que je ne lâche pas le sac, je le tiens. Et c'est en Dieu qu'à ce moment-là, on va puiser nos forces. En Luc chapitre 8, verset 24, il est dit « Et s'approchant, ils le réveillèrent, disant « Maître, maître, nous périssons !» Mais lui, s'étant réveillé, réprimanda le vent et les flots, et ils s'apaisèrent, et il se fit un grand calme. » Voilà. Voilà. Si vous n'avez pas lâché le sac, au moment où le plus terrible de la tempête, il va se lever dans votre vie et apaiser la tempête. L'autre gage du succès, c'est la confiance. Beaucoup de sportifs, comme je vous ai dit, en fin de compte, n'ont pas peur parce qu'ils ont confiance en eux. Parce qu'ils savent qu'ils ont passé des heures à s'entraîner. Ils savent que ceci, ils savent que cela. Ils sont capables par eux-mêmes de traverser cette situation. Mais vous, j'espère qu'il n'en est pas de même. J'espère que vous n'avez pas confiance en vous, seul. J'espère que vous n'avez pas confiance dans le monde ou quelqu'un qui aurait une place dans le monde qui peut vous aider. Mais j'espère que vous allez puiser votre confiance en celui qui se lève dans votre barque pour apaiser les flots. De savoir que Dieu vous a toujours secouru juste au moment où il fallait. C'est pas quand je l'ai demandé, c'est juste au moment où il le fallait. Vous pensez bien que les apôtres, s'ils n'étaient pas allés voir Jésus en disant « Nous périssons », Jésus aurait continué à dormir. Et il se serait levé juste au moment où il le fallait. Le résultat aurait été quoi ? Les flots et la tempête s'arrêtent. Parce que les plans de Dieu, on ne les connaît pas pour nous. Mais il y a une chose à savoir, c'est que même au milieu de la tempête, le Seigneur nous enseigne la patience et la confiance. Attends, sois patient, tu vas voir le miracle que je vais faire dans ta vie. Et quand les choses arrivent, mais on se dit, mais maintenant je comprends. Je comprends pourquoi le temps est le temps de Dieu. Parce que toutes les circonstances autour, elles ont été arrangées par Dieu lui-même. Et n'oubliez jamais que ce que fait Dieu est définitif. Alors ce que fait un homme, ça peut arrêter pendant quelques jours, mais ça va revenir. Chasser le naturel et il revient au galop. Mais lorsque Dieu intervient, ça stoppe net. Mais ça ne fait pas que stopper. Ça vous édifie. Ça doit vous édifier. Parce qu'on sait que l'action de Dieu est une action qui vient de son esprit. Et cette action, l'intervention de Dieu, en fin de compte, c'est pour vous élever. C'est pas pour vous dire « vous êtes tu es incapable d'agir, regarde, c'est moi qui vais le faire. » Non. C'est pour te dire « Je suis ton Dieu. Mets ta confiance en moi. Je vais édifier un mur que personne ne pourra ébranler. Et il va le faire. Il va le faire avec puissance. Il va le faire de telle manière que personne ne pourra contester la chose qui aura été faite dans votre vie. Mais avez-vous cette confiance ? La confiance, en fin de compte, c'est la foi. Mais ça va bien plus loin que la foi. C'est un amalgame de la foi et la fidélité. Vous pensez bien que quand j'ai donné cette image du guide qui dit « accroche-toi à mon sac », c'est-à-dire que vous savez que si vous lâchez ce sac, vous êtes perdu. Et automatiquement, je reste accroché à ce sac. À un moment donné, je ne vais pas dire « lâcher ce sac » et dire « je peux me débrouiller tout seul, tout va bien, je peux me débrouiller tout seul ». Parce que c'est à ce moment-là qu'arrivera la croisée des chemins et vous allez prendre le mauvais chemin. Mais si vous restez attaché à ce sac, automatiquement, vous prendrez le bon chemin. C'est pour ça qu'il y a tant de gens dans les églises qui se perdent. Parce qu'ils ont l'impression d'être accrochés au bon sac, ils ont l'impression d'être sur le bon chemin. Mais en fin de compte, ils se croient sur le chemin de Cassel, parce que le guide, soi-disant, doit les amener à Cassel. Et puis, en fin de compte, ils se retrouvent sur le chemin de Labassée, avec un guide qui, lui, est chargé de vous amener à Labassée. Vous voyez ce que je veux dire? En fin de compte, il vous emmène sur le mauvais chemin, en vous faisant croire que vous êtes sur le bon. Et lorsqu'on a cette fidélité, lorsqu'on a cette foi de dire « oui, celui-là va m'emmener sur le bon chemin », de garder les yeux fixés sur Jésus pour dire « lui seul est capable de me faire avancer », je ne veux pas le quitter des yeux. Il va vous emmener sur son chemin. La force, et notre force aujourd'hui, c'est justement ce calme et cette confiance qu'on a dans le Seigneur. Et qu'on devrait avoir. Savoir qu'on a l'Esprit de Dieu, je vous l'ai dit ce matin. Savoir qu'il suffit de demander au nom de Jésus et croyez déjà que vous le possédez. Pourquoi je panique ? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur quand je sais que même si la tempête est immense, Jésus va se lever dans ma barque. Mais au moment où il l'aura choisi. Il ne faut plus avoir peur, il ne faut plus paniquer, il ne faut plus se laisser effrayer. Et lorsque plein de sentiments nous emparent, qu'est-ce qu'on fait? On les chasse au nom de Jésus. J'en veux pas, au nom de Jésus. J'ai un Dieu qui est plus fort que ses sentiments. J'ai un Dieu qui est plus fort que ses idées. Je les chasse au nom de Jésus. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas fuir, mais il faut regarder la montagne qu'on a devant nous en face. En face. Parce que la plupart du temps, les gens fuient. Les gens vont chercher du secours là, où ils ne vont jamais trouver le secours. On fait volte-face, on regarde, on se confronte à la réalité des choses qui arrivent dans nos vies. Et on laisse Dieu nous venir en aide. Vous connaissez l'histoire de la personne qui est en train de se noyer? Nous, on avait appris ça dans l'armée. Premier coup, quand vous ne savez pas nager, on vous balance dans la flotte, alors vous commencez à bouger des bras, des mains, des jambes, de tout ce que vous pouvez. Et vous avez l'éducateur sportif qui vous dit « mais arrête de bouger les bras, arrête de bouger les jambes, et tu vas voir, automatiquement tu vas flotter ». Il m'a fallu des mois pour le faire. Et quand je l'ai fait, bizarrement, ben j'ai flotté. Mais c'est exactement la même chose avec le Seigneur. On commence à bouger dans tous les sens. Le Seigneur dit, mais attends, ne panique pas. Calme-toi. Je suis avec toi. Et quand vous commencez à vous calmer, ben vous apercevez qu'effectivement, ça y est, j'entends à nouveau la voix du Seigneur. J'entends plus mes hurlements, j'entends plus mes cris, j'entends plus mes pleurs, mais j'entends à nouveau la voix du Seigneur. Et je flotte au-dessus de mes problèmes. Parce que le Seigneur, ben, il est en train de me porter au-dessus de mes problèmes. Il ne vous les a pas enlevés, mais il vous aide à traverser ces problèmes. Un secret de la réussite encore, c'est affronter la déception. En psaume 55, versets 13 à 14, « Ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui s'élève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident et mon ami. » Alors on estime que David ici a écrit ces paroles au sujet du grand-père de Bathsheba, Achitophel, qui, en fin de compte, l'a trahi. Pendant des années, il l'a trahi. Et ça a aggravé, en fin de compte, le sentiment de déception de David. Et la déception fait partie de la vie. La déception fait partie de notre vie. Mais qu'est-ce qu'on en fait? Si on n'accepte pas la déception, si on n'accepte pas d'être déçu, vous savez, ce qu'on dit souvent, c'est... J'aimerais bien vivre dans un monde de béni oui-oui, où tout va bien, tout est beau, tout est correct. Mais ce n'est pas possible. On ne peut pas réussir un monde comme cela. Et si on n'accepte pas la déception dans notre vie, on va droit à l'échec. Il va falloir un jour affronter cette déception. Même si c'est difficile. Et savoir qu'avec Dieu, on peut triompher de cette déception. David avait l'habitude de prier « Ne me laisse pas déçu, jamais !» en psaume 31, verset 2. « Ne me laisse pas déçu, jamais !» Qui vous a déçu aujourd'hui? Vous avez déçu qui? C'est guère mieux. Est-ce que vous vous êtes déçu ce matin par des comportements, par des paroles? C'est un sentiment destructeur, la déception. C'est plus fort que certaines personnes, parce que ça nous envahit. Il faut la combattre et la rejeter de notre cœur. Parce que la déception, ça nous rend injuste. Il faut que... Parce que ça ne va pas comme je veux, il faut que, il faudrait que. Et si malheureusement, ben, il faudrait que ça ne se fait pas, ben, on est déçu. Mais si on s'arrêtait là, ce n'était pas grave. Mais le pire, c'est qu'on devient amer. Et la racine d'amertume dans le cœur, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Parce que ça provoque le jugement. Parce que ça provoque... Le manque d'amour. On n'aime plus parce qu'il m'a déçu. Je croyais autre chose. Je pensais qu'il était autre chose. Je pensais qu'il avait l'amour. Il m'a déçu. Il ne devrait pas diriger une église. Il ne devrait pas parler au micro. Il ne devrait même pas évangéliser. Parce qu'il est indigne. Parce qu'il ne m'écoute pas. Parce que quand je lui parle au travail, c'est mon chef. Moi j'ai raison, et il ne m'écoute pas. Et on va droit dans le mur. Je pourrais prendre sa place. Je pourrais être chef à sa place. Et on alimente. Et on alimente. Et on alimente. Et on ne s'aperçoit pas que on est en train de s'éloigner du Seigneur. Parce qu'on juge. Et je ne suis parti que de la déception. Vous imaginez ? Je n'ai même pas parlé du moi, mais vous l'avez senti. Que la déception, c'est souvent la réalité du moi dans nos vies. Parce qu'on se juge supérieur. Parce qu'on n'accepte pas d'avoir tort. Parce qu'on s'excuse même pas d'être comme ça. Parce qu'on s'excuse même pas d'avoir de tels jugements. Parce qu'on est amer. On est vraiment amer. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est que on n'a pas fini d'être déçu. Ça, c'est clair. On n'a pas fini d'être déçu. On est dans un monde où on est de déception en déception. Il y a un seul est trouvé juste. Même nous, même moi, devant vous, je peux vous décevoir. Et j'en ai conscience. Mais on doit combattre ce sentiment. On doit combattre ce sentiment parce que c'est une... ça gangrène le cœur. Ça nous aveugle. Et il faut vraiment que on demande au Seigneur de nous enlever ces choses. Parce que tout ce que je vous ai dit avant est parti. La paix, la confiance, la fidélité. Vous êtes aveuglés. Vous avez remplacé ça par l'amertume, par le jugement, par le manque d'amour. Il faut prier que le Seigneur vous met mal à l'aise devant la déception. Mais vraiment mal à l'aise. Seigneur, mets-moi mal à l'aise quand je suis déçu. Mais pas de dire, je suis mal à l'aise, voilà, je suis déçu, je suis pas bien parce que je suis déçu. Non. Mais non, Seigneur, je ne dois pas avoir ce sentiment. Je ne dois pas avoir ce sentiment. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans l'église, que ce soit partout où on se trouve, Seigneur, éloigne ce sentiment parce que ça va bousiller ma vie. Un des points... Le Seigneur m'a mis, je comprends toujours pas pourquoi j'ai eu à cœur la solitude. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Psaume 102, verset 7. Quel soit le résultat d'un deuil, quel soit le résultat d'une cruelle séparation, ou alors de l'orgueil, parce que vous le verrez, l'orgueil fait de nous des solitaires. C'est jamais facile à vivre. Et on l'a subi tous un jour. Et la plupart du temps, c'est sans qu'on le veuille. Alors l'orgueil. L'orgueil, ça peut nous forcer à penser, comme je viens de vous l'expliquer, qu'on a toujours raison. Quoi que je fasse, j'ai toujours raison. Et qu'il est impossible que je revienne sur ce que j'ai dit. C'est impossible, parce que j'ai toujours raison. Alors on se retrouve seul, parce que les autres n'ont pas envie de travailler avec moi. N'ont pas envie de travailler avec quelqu'un qui n'accepte pas d'avoir tort, qui n'accepte pas d'avoir ses erreurs, de voir ses erreurs. Et on se retrouve complètement seul. Je suis persuadé que vous en côtoyez tous les jours des gens comme ça. Que ce soit des chefs de service, que ce soit des autorités de la ville, que ce soit des gens de tous les jours, vous en côtoyez tous les jours. Et ces gens n'ont aucun ami, parce que c'est impossible d'avoir des amis. Il y a le deuil, le divorce, ou la dispute, la fâcherie avec les enfants, qui fait qu'à un moment donné, on est seul. Parce qu'on a le reste de la famille sur le dos. Parce que quand je parle à la maison, j'ai toujours raison. Mais c'est légitime. On ne peut pas accepter, bien sûr, je ne vais pas vous dire que c'est mauvais d'accepter ou de dire que je suis seul, sans rien dire, sans pleurer. Mais Jésus a connu cette solitude. Il l'a connue. Il a connu la même solitude. Il est passé par là. Et il faut affronter cette solitude en venant dans la présence du Seigneur. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de un jour d'être seul et puis bah vous dites, je vais me mettre à prier. Ou alors je vais lire la parole. Et d'un seul coup, c'est bizarre, j'ai l'impression de ne plus être seul. Pourtant, c'est un livre. On sent l'Esprit de Dieu qui est avec nous, qui nous accompagne. Il nous enlève cette solitude, il purifie notre cœur. Il faut arrêter de regarder ceux qui ne viennent pas nous voir quand on est à l'hôpital. Il faut arrêter de regarder ceux qui ne nous aident pas quand on est dans la misère. Mais il faut regarder à Dieu. Celui qui va se lever dans votre misère et qui va vous aider. Il ne va peut-être pas vous aider avec de l'argent. Il ne va peut-être pas vous aider en vous amenant le soleil alors que vous avez réclamé de la pluie. Mais il va vous aider en étant présent. Vous allez sentir sa présence. Vous allez sentir la paix et l'amour de Christ dans votre vie. Et je ne vous apprends rien parce que vous en avez tous fait l'expérience. Mais parfois, on l'oublie. Le malin est là pour nous dissiper dans ce monde. Et on oublie qu'on a cette présence de Dieu dans notre vie. Il faut laisser, en fin de compte, Dieu rebâtir notre existence. Tous ces murs qui se sont écroulés parce que j'avais un mari, parce que j'avais une épouse, soit qui est décédé ou soit qui est parti. Parce que j'avais une bande d'amis et parce que je suis devenu chrétien, ben ils sont partis. Il faut laisser Dieu rebâtir notre vie, mais avec ses murs, avec ses pierres, avec son ciment. Et vous serez plus fort. Il faut simplement combattre en mettant sa foi en action. Je dis bien simplement, parce que c'est tout simple. Je ne suis pas en train de vous donner une super recette que peut-être vous n'avez jamais entendue. Vous l'avez entendue, vous l'avez lue, c'est « j'engage ma foi ». Que ce soit dans la solitude, que ce soit dans la déception, que ce soit dans mes problèmes, j'engage ma foi de savoir, oui, j'ai confiance en l'Éternel. Pourquoi j'ai confiance en l'Éternel? Parce qu'il est allé jusqu'à donner son Fils unique pour moi. Alors pourquoi ne viendrait-il pas au milieu de vos tempêtes? Affronter ses frustrations, un espoir différé rend le cœur malade, Proverbe 13, 12. Le sentiment de frustration vient de quatre sources. Enfin, moi j'en ai détecté quatre. J'ai réfléchi, j'en ai trouvé quatre. Les choses que vous attendez n'arrivent pas assez vite. On est pressé. On n'a pas ce qu'on veut. On est rejeté par les autres. Et d'autres nous déçoivent. Il n'y a personne, et je ne vous condamnerai pas parce que vous avez ce sentiment-là de frustration. Mais par exemple, je vais condamner ce sentiment-là. On n'a pas à être frustré. Parce que ça nous rend malade en fin de compte. Parce que normalement, l'Esprit de Dieu influence l'état de notre âme. Ça veut dire que si je suis frustré, je couvre l'Esprit de Dieu. Vous savez, il est dit dans la parole qu'il ne faut pas attrister l'esprit. Je peux attrister l'esprit par ce sentiment. Sentiment de... Il y a un truc qui ne va pas. Et il y en a plein dans nos églises, il y en a plein. Et il faut faire face à ces moments de frustration. Ces moments où on se dit, où on se croit supérieur, où on se croit capable d'eux. Et de dire, ben non, je suis rien du tout. Je suis qu'un vermisseau. Et si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à Dieu et rien d'autre. C'est pas grâce à ma force, c'est pas grâce à ce que vous voulez, c'est simplement la présence de Dieu dans ma vie. Alors on peut l'avoir des fois depuis très longtemps. Elles font partie des meubles de notre vie. Mais moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous donner un conseil. Ils annoncent du très beau temps la semaine prochaine. Vous sortez vos meubles et vous les nettoyez. Faites le nettoyage de printemps dans votre vie. Tous ces sentiments-là, vous les donnez au Seigneur. J'en veux plus. Mais ça, il faut les identifier. Il faut dire, ben oui, je suis frustré. En fin de compte, on ne m'utilise pas comme on devrait m'utiliser. Que ce soit ici, dans votre travail. Il faut balayer ça. Parce que peut-être aujourd'hui, le Seigneur te dit, attends, ce n'est pas encore le moment. Et un jour, alors que vous ne le souhaitez pas, il dit, ton jour, c'est maintenant. Et c'est surtout au moment où on ne le souhaite pas que Dieu vous dira, c'est maintenant. Vous imaginez, vous avez passé des années à être frustré, à dire, mais j'ai la capacité d'être chef de service, d'être responsable de ceci, responsable de cela, d'être ancien. Et puis, ben, le Seigneur te dit, et puis vous le sentez, hein, il vous dit, non. Et d'un seul coup, au moment où vous n'y attendez pas, c'est maintenant. Et pourquoi? C'est parce que le Seigneur aura sorti les meubles à votre place. Et parfois, il va les sortir d'une façon violente. Parce qu'on n'aura pas réussi à identifier ce qui fait que on ne m'utilise pas à bon escient. Il va les sortir, mais ça va faire mal. Parce qu'il va casser les fenêtres et les portes. Si vous comprenez bien ce que je dis, il va vous briser. Il faut avoir cette envie de faire mourir ces choses dans notre vie. Et notre souhait ce matin, c'est quoi? Est-ce que j'ai envie d'enlever la frustration de ma vie? Et réfléchissez bien, chacun, on est frustré de quelque chose. On est tous frustrés. Et souvent, elle nous isole, elle nous coupe des autres, elle nous empêche de nous intégrer à un groupe, à une église. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de SEF, ouais. Sans église fixe. Les gens qui vont d'une église à l'autre, c'est parce qu'ils sont frustrés que ben il y a des choses qui vont pas, il y a ce que vous voulez. Et vous avez des gens qui démissionnent parce que ben l'entreprise va pas comme je veux. Parce que, en fin de compte, mais j'ai des capacités, j'ai un bac plus 30. C'est 30 années avant le bac. J'ai un bac plus 30, et puis en fin de compte. On ne m'utilise pas comme on devrait. Ah ben, je vais démissionner. Et je change d'usine. On arrive dans une autre usine, dans autre part, et bien c'est la même chose. On ne m'utilise pas comme je voudrais. On est incapable de s'engager réellement. Mais vous comprenez que tout ce que je viens de dire, quand on est frustré, tout est réuni. Tout est réuni. C'est-à-dire qu'on devient amer. On juge. Dans toutes les choses que je vous ai dit ce matin, il y a l'amertume, il y a le jugement et il y a le moi. Et je voudrais simplement conclure en vous disant que le Seigneur veut faire mourir ces choses dans vos vies. Il veut faire mourir ces choses. Parce qu'il veut, lui, prendre la place. La place. Et là, la finalité, c'est que, à ce moment-là, lorsqu'il aura pris la place, vous aurez réussi votre vie. Parce qu'elle ne vous appartiendra plus. Et c'est ça qui est phénoménal. C'est que quand vous allez réussir votre vie en Christ, bah cette vie ne vous appartiendra plus. Parce que c'est lui qui sera vous. Et vous, vous serez lui. C'était difficile d'en arriver à cette conclusion. Et je ne vous ai rien dit de plus que ce que dit la parole de Dieu. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ce matin, le Seigneur veut prendre votre place, votre moi, vos frustrations, tout ce que je viens de dire maintenant. Il faut lui donner. Il faut dire, Seigneur, fais mourir ces choses en moi. Sinon, il va le faire, mais je vous ai dit, il va casser les fenêtres et les portes. On peut demander au Seigneur, Seigneur, enlève ces choses dans ma vie. Et vous allez le sentir. Il va les enlever. Il va enlever l'amertume. Il va enlever le jugement. Il va venir. Il va dire, ce temple me plaît. J'y reste. Et vous allez être le temple de Dieu. Et votre vie sera la vie de Christ. Et Christ sera votre vie, tout simplement. Seigneur, je te rends grâce parce que ta parole est d'une simplicité. Seigneur, je te prie pour chacun d'entre nous que tu puisses faire mourir tous les sentiments qui ne t'appartiennent pas. Seigneur, je sais que ta conviction, c'est de... Et ce que tu veux le plus, Seigneur, c'est vivre en nous. Tu veux vivre en nous. Tu veux faire mourir les œuvres de la chair. Tu veux que le péché s'en aille définitivement. Et tu viendras faire de nos vies un temple. Seigneur, que ce matin, tu puisses, par ton esprit, faire mourir ces sentiments dans le cœur de ceux qui te le demandent, de ceux qui se lèvent en disant « J'en ai marre de cette vie, je veux que tu viennes dans mon cœur. » Et Seigneur, fais-le dans le nom de Jésus. Amen.